Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot International. En ce début de semaine, nous sommes mardi et nous avons plein de choses à vous dire. Et d'abord, ces nouvelles autour de la compétition, la CAN. Celle de 2021 est reportée à janvier 2022. Cette compétition phare du football africain est la nouvelle victime collatérale du coronavirus, le calendrier des rencontres internationales ne permettant pas de désigner les 24 qualifiés avant le début de cette compétition. Le comité exécutif de la CAF vient de s'achever, il a pris d'autres décisions. Le président Hamad sera en direct dans quelques secondes avec nous pour vous donner plus de détails. Il y aura aussi à mes côtés Antoine Grenier du service des sports d'RFI. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Et puis Philippe Doucet, notre ami de Canal+, est là aussi. Bonjour monsieur Philippe.
Bonjour madame Annie.
Ne perdons pas nos habitudes, ça fait longtemps qu'on ne se voyait pas, mais quand même. Nous évoquerons aussi cette voie royale pour le Real Madrid après le deuxième faux pas des Blaugrana. Les Madrilènes, emmenés par Karim Benzema au talon magique, ont maintenant 2 points d'avance. Alors que ça tangue dans le club catalan, le Barça reçoit ce soir les Colchoneros de Diego Simeone. L'adieu au titre? Eh bien, François David nous en dira plus. Lui, il sera en direct de Barcelone. Radio Foot, c'est parti. Décidément, la CAN au Cameroun est maudite. La compétition aurait dû se disputer début 2019 dans des stades flambant neufs ou rénovés, mais les dirigeants de la Confédération africaine avaient finalement décalé cette compétition, décalé le calendrier. Elle a eu lieu l'an dernier en Égypte. Il y avait eu ce glissement vers janvier 2021. C'était compté sans le coronavirus qui a mis une énorme pagaille dans le calendrier international. Et ce matin, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a dû décider de reporter la compétition d'un an. Nous sommes en direct dans Radio Foot International avec le président de la Confédération africaine, monsieur Hamad, bonjour.
Et bonjour madame.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans cette émission. La prochaine CAN aura donc lieu non pas en janvier 2021, mais en janvier 2022. C'est un nouveau glissement. Était-il inévitable, inéluctable?
Exactement. Ce n'est pas la nouvelle CAN, mais la CAN 2021 est reportée en janvier 2022. Ceci, comme vous avez bien dit tout à l'heure, c'est la conséquence directe du coronavirus, ce qui ne nous a pas permis d'organiser les qualifs de cette compétition. Il y a 4 journées qui restent, et aussi, surtout, comme tout le monde dit en Afrique, la CAN, ce n'est pas seulement une fête de football, mais c'est une grande fête africaine. Nous ne voulons pas prendre le risque de l'organiser dans un stade vide et surtout avec une situation où aucune visibilité aujourd'hui dans le continent. Antoine. Vous avez vu, même ce mois de juin, le cas positif de Covid-19 augmente de jour en jour, ce qui n'est pas le cas dans les autres continents.
Effectivement.
Tous ces éléments. Et après avoir discuté avec toutes les parties prenantes du football africain et évidemment les autorités camerounaises, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour prendre cette décision, évidemment pour préserver la Coupe d'Afrique des Nations.
Antoine Grenier.
Bonjour Président Hamad, vous parliez du gouvernement camerounais. Les Camerounais qui ont déjà dépensé des milliards de francs CFA pour accueillir cette CAN. Quelle a été la réaction du gouvernement camerounais lorsque vous leur avez annoncé qu'il faudrait attendre encore un petit peu?
C'est pour ça même, pour préserver ces énormes investissements, que de commun accord avec eux, on a pris cette décision. Et pas seulement eux, il y a aussi des partenaires commerciaux.
Philippe Doucet ?
Oui, je sais pas, le président.
Vous êtes toujours là, monsieur Hamad ?
Oui.
Ah, d'accord, pardon. On avait eu l'impression que c'était coupé. Philippe Doucet ?
Oui, je pense que le report de la CAN était, effectivement, le mot était juste, inéluctable. Et la CAF a bien fait de reporter les dates de mars, de reporter le CHAN, de reporter les dates du mois de juin, des dates FIFA du mois de juin, de reporter septembre. Je crois que c'est la CAF qui a demandé à ce que septembre, l'Afrique ne puisse pas jouer les matchs de qualification. Je trouve que c'est extrêmement raisonnable. Est-ce que vous aviez quand même en tête la possibilité, est-ce que ça a été discuté de se dire, bon, octobre-novembre, ça reste quand même possible, malgré tout, de jouer les quatre matchs? Bon, ça aurait été un peu à la Pyrrhus, mais bon, pourquoi pas? Est-ce que tout ça a été discuté ou est-ce que tout le monde a considéré que raisonnablement, il fallait pas prendre ce risque-là, Président?
Oui, on a pris en compte tous ces éléments, mais il faut pas oublier aussi, jusqu'à aujourd'hui, aucune compagnie aérienne africaine, que ce soit Ethiopian Airlines qui dessert beaucoup plus de pays africains, ou Royal Air Maroc, ou Air Égypte, ou Kenya Airways, ou South African. Personne ne sait aujourd'hui quand est-ce qu'ils vont reprendre leur vol. Et évidemment, si vous vous souvenez de la décision d'agencement de calendriers internationaux lors de la dernière réunion avec la FIFA, même si on a pris des accords de principe par rapport à ces calendriers internationaux, le président de la FIFA a toujours spécifier que tout est flexible parce que nous savons que nous vivons une période inédite, une période que nous ne maîtrisons pas.
Antoine Grenier.
Oui, Président Hamad, une CAN en 2022, ça veut dire que certaines sélections africaines vont avoir deux très grosses compétitions à jouer puisque 2022 est aussi une année de Coupe du Monde. Est-ce que ça risque pas de faire beaucoup pour les joueurs ?
Écoutez, c'est pour cette raison qu'il faut, vu cette situation, il faut une adhésion de tout le monde, il faut toujours prendre des décisions inclusives et qu'il faut qu'il y ait une compréhension de part et d'autre. Vous avez même évoqué tout à l'heure les investissements du gouvernement camerounais. Il y a la Coupe du Monde 2022, il y aura les éliminatoires de la CAN 2021, et les éliminatoires même, il faut réfléchir déjà, c'est pour ça que ce n'est pas évident, il ne faut pas trop tirer sur la corde, parce qu'il faut réfléchir déjà aussi sur la CAN 2023.
Monsieur le Président, cette CAN aura donc lieu en janvier 2022. Pour les Camerounais qui ont préparé beaucoup d'installations, vous leur offrez, je dirais, ce CHAN, l'autre compétition du football africain, le championnat d'Afrique des Nations, qui avait été reporté à cause du coronavirus. Il aurait dû commencer début avril 2020. Il aura lieu à la place de cette CAN au Cameroun.
Exact. J'ai déjà informé les autorités camerounaises. Comme vous savez, chaque décision que nous prenons, en amont, nous discutons avec les parties prenantes et après avoir pris des décisions, nous partageons aussi avec ceux qui sont concernés. Et je peux vous garantir que tout ce que nous avons décidé est toujours de commun accord avec le gouvernement camerounais.
Donc ça sera en janvier à la place du mois d'avril finalement qui était prévu initialement.
Exact.
D'accord. Antoine Grenier.
La CAN reportée et le CHAN également, ça va faire une très longue période pour la CAF sans revenus générés par ces compétitions. Comment la Confédération africaine va-t-elle gérer ce report alors que ses finances, comme toutes les finances, souffrent de cette crise du coronavirus ?
Écoutez, il faut assumer, c'est pas seulement le football, ni seulement l'Afrique qui en subit aujourd'hui avec cette pandémie. Il faut qu'on assume et on essaie de faire de notre mieux et surtout qu'il faut aussi aider les fédérations, les associations nationales. Est-ce que vous n'imaginez pas qu'aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, nous avons pris quand même des décisions exceptionnel. Si dans le temps normal, on alloue 200 000 dollars à chaque fédération, aujourd'hui, on vient de rajouter 300 000 dollars de chaque aussi à chaque fédération pour pouvoir maintenir le niveau de notre football par rapport à la situation.
Monsieur le Président, le glissement, comme je disais tout à l'heure, de ces compétitions avait été décidé aussi parce qu'il y a eu le passage de l'organisation de la CAN de janvier à juillet dans les calendriers. Ça avait été décidé peu de temps après votre élection. Est-ce que on peut pas penser que ça a fait dérailler la machine CAN?
Vous savez, c'est pour les gens qui ne connaissent pas l'Afrique ou qui ne veulent pas connaître l'Afrique, parce qu'il y a, ça aussi, c'est comme si c'est une évidence de prendre une date seulement. L'Afrique, il faut le prendre dans sa spécificité. L'Afrique, c'est deux saisons différentes. Et même peut-être il y a des microclimats aussi au sein des régions. Même si je peux vous dire, en Afrique centrale, la saison de pluie au Congo-Brazzaville n'est pas pareille avec le Cameroun. Donc, on ne peut pas, c'est pour ça que le langage des fois qui disent que la CAN se joue en été n'est pas applicable chez nous. L'été chez moi à Madagascar, par exemple, ce n'est pas l'été qui est dans le nord, au Maghreb. Donc, voyons les choses de cette manière et si on ne le c'est pas trop nous demander pourquoi on le fait. Mais sachez que si on le fait, c'est pour le bien du football africain, c'est pour le bien de notre continent.
Philippe Doucet.
Oui, Président, vous ne pouvez tout de même pas cacher qu'effectivement, quand vous avez pris cette décision en juillet 2017, peu après votre élection, d'ores et déjà, tout le monde a considéré que c'était... que en gros ça arrangeait la FIFA et l'Europe et tout le monde que la CAN passe en juin, mais que malgré tout les trois CAN suivantes étaient programmées dans des pays dont la saison des pluies est au mois de juin, c'est-à-dire à l'époque on parlait du Cameroun 2019, on parlait de la Côte d'Ivoire 2021, on parlait de la Guinée 2023, c'était trois pays où c'est la saison des pluies en juin-juillet. Donc ce timing est à la fois étonnant et ça... Et d'ailleurs, vous avez être revenu en arrière à juste titre sur la CAN 2021 au Cameroun en l'attribuant en janvier et non en juin. Est-ce que ça n'a pas fragilisé, je reprends un peu la question d'Annie, est-ce que ça n'a pas fragilisé la CAF de changer sans arrêt de date et donc d'apparaître un peu comme une girouette aux yeux de ceux qui notamment la FIFA, ceux qui font le calendrier international?
Tout d'abord, lorsque nous avons annoncé, je ne sais pas si vous avez encore l'enregistrement de la conférence de presse que j'ai eue ou l'annonce que j'ai eue après le symposium. Et on a toujours dit, en réserve, ça dépendra du lieu de la région où on organise la compétition. Et de deux, pourquoi spéculer tout le temps? On a pensé que la CAN 2019 se déroule au mois de janvier au Cameroun, mais vous avez vu, ça s'est déroulé au mois de juin en Égypte, juillet. Aujourd'hui, on parle de la CAN 2021 qui va se dérouler en janvier 2022 au Cameroun. Attendons, ne précipitons pas, ne spéculons pas. Attendons que la CAN 2023 arrive, on verra. Et tout ça aussi, il ne faut pas oublier, nous ne l'avons pas choisi. Nous l'avons hérité et on assume parce que c'est la continuité de l'administration. Je ne peux pas vous dire en plus, mais c'est la réalité. Est-ce qu'au moment où on a pris ces décisions d'organiser la CAN 2019, 2021, 2023, j'ai jamais entendu des commentaires par rapport à ça et que ça devait se jouer en janvier. Nous, on est arrivés, on a écouté les gens et on prenait les décisions par rapport à ce que les parties prenantes du football africain souhaitent.
Monsieur le Président, alors justement, on parle de ces programmations. On nous écoute aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi. La CAN 2023 est programmée en Côte d'Ivoire pour théoriquement janvier 2023. Avec une CAN en janvier 2022, avec une Coupe du Monde en novembre-décembre 2022, peut-il y avoir une CAN en Côte d'Ivoire en janvier 2023?
Je m'excuse, je ne fais pas partie des bons gestionnaires qui spéculent trop. J'attends, j'avance, et puis je prends avec mes pairs les décisions qui s'imposent. Attendons.
Mais est-ce que...
Souvent, vous n'avez pas vu, mais souvent, vous vous trompez sur ce que nous faisons.
En tout cas, Président, est-ce qu'il n'aurait pas, parce que c'est plutôt en juin 2023 qu'elle est prévue, cette CAN en Côte d'Ivoire, est-ce que, compte tenu des pluies diluviennes en ce moment en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'était pas l'occasion de refixer le calendrier, d'en tenir compte, de faire preuve aussi d'humanité, en quelque sorte, de solidarité vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, et de dire d'ores et déjà qu'il paraît peu probable que cette CAN puisse se dérouler en juin et qu'on imagine déjà que ce soit en janvier 2024, par exemple.
Monsieur Philippe Doucet, ne m'obligez pas à dire ce que je ne veux pas dire. Vous connaissez beaucoup plus les pays africains et vous savez tout ce qui se passe maintenant. Je pense que, comme j'avais dit toujours, ne spéculons pas. La CAN 2021, qui se déroule en 2022, préparons-la bien, et puis on verra aussi les autres compétitions après.
Antoine Grenier.
Oui, Président Hamad, je veux pas avoir l'air de spéculer à nouveau, comme vous dites, mais quand on voit les dernières éditions, tous les problèmes d'organisation auxquels la CAF a dû faire face, quand on voit aussi que la FIFA pousse pour que la CAN se joue tous les 4 ans, est-ce que jouer la CAN tous les 4 ans, ça reste un sujet tabou?
Nous faisons ce que les gens veulent ou ce que l'Afrique veut. Je suis là en tant que dirigeant africain. Nous, les membres de l'Exco de la CAF, sont élus par les associations africaines. Je ne sais pas si nous sommes là pour protéger les intérêts des clubs européens ou pour voir ensemble qu'est-ce que l'Afrique veut et de quelle manière on peut protéger aussi ces joueurs africains. Est-ce qu'on ne peut pas aussi poser une question? Les enfants africains, ces jeunes qui reviennent dans leur continent juste un mois et demi tous les 2 ans, est-ce qu'un est trop? Ou c'est aussi comme les matières premières qui vont et que le continent ne bénéficie pas? Est-ce qu'on ne peut pas poser aussi de cette manière la question? Pour dire aux autres qui en bénéficient maintenant l'utilisation, que ayons quand même un sentiment pour ce continent qui nous offre depuis toujours le service de leurs enfants.
Par contre, Président Hamad, la CAN féminine, elle, n'a pas été reportée, elle a été annulée.
Effectivement, c'est la proposition de la Commission de football féminin qui a estimé que, au vu de la situation, les éliminatoires ne peuvent pas se tenir. Et comme vous savez, l'organisation de la CAN féminine, au début, c'était pour les éliminatoires, les qualifications pour la Coupe du Monde féminine. Et comme en 2020, il n'y a pas de Coupe du Monde, ou en 2021, la Coupe du Monde, la prochaine, c'est en 2023. On s'est dit, préparons nos athlètes à travers leur club, tout en organisant en 2021 les compétitions, une Ligue champion des filles. Et à ce moment-là, nous organisons la CAN en 2022, en prévision de la Coupe du Monde 2023.
Oui, la Coupe du Monde féminine a été attribuée à l'Océanie par la FIFA la semaine dernière. Antoine Grenier, encore une question.
Oui, Président, l'année même de la création de cette Ligue des champions féminines que vous avez annoncée, la CAN, elle, se retrouve annulée. Est-ce que ça brouille pas un peu le message de la CAF à l'égard du foot féminin?
savez, la majorité des membres de cette commission sont des femmes. Ce n'est même pas la majorité, 100%. À travers le symposium du football féminin et différentes assises qu'ils ont organisées, c'est par là qu'ils se sont rendus compte qu'il faut aller de cette manière, mais renforçons les compétitions de jeunes filles de moins de 17 ans au niveau des zones pour pouvoir toujours préparer l'avenir des filles au niveau du football.
Philippe Doucet ?
Oui, une question sur le... D'abord, bravo pour la création de la Ligue des champions féminines, il faut le souligner. Et ensuite, une question sur la Ligue des champions masculines et la Coupe de la Confédération. J'ai vu que vous aviez opté pour un schéma en Final Four, c'est-à-dire avec des demi-finales sur un match et la finale, tout ça sur le même lieu pour aller plus vite, tout simplement en termes de calendrier. Ça paraît de bon aloi. Alors, la Coupe des Confédérations au Maroc, la Ligue des champions au Cameroun, est-ce que, compte tenu des incertitudes dont vous avez parlé tout à l'heure, les avions, l'aspect sanitaire, etc., est-ce qu'il y a d'ores et déjà des plans B ? Parce que, par exemple, au Cameroun, si vous avez une inquiétude sur janvier, j'imagine que vous avez encore plus d'inquiétude pour septembre, par exemple.
C'est une cohérence de principe de prise de décision. Après, nous allons nous consulter en interne avec les différentes parties. Si au cas où un de ces deux pays nous disent, ces deux fédérations nous disent qu'ils ne pourront pas, c'est à ce moment-là qu'on sortira, on réfléchira sur un plan B, que la Commission était déjà en train de réfléchir là-dessus, mais on ne peut pas mettre en exergue un plan B tant que le plan A n'arrive pas à se réaliser.
Un petit détail, Président. J'ai ouï dire qu'il y avait même une candidature extérieure à l'Afrique pour organiser la phase finale de la Ligue des Champions. Ça a été étudié ? C'était une vraie possibilité pour vous ?
Exact. Il y avait une autre proposition, mais qui est sous la table.
Antoine,
vous voyez, il y a plusieurs pistes qu'on peut approfondir.
Antoine Grenier, dernière question.
Oui, Président, pour finir, on vient de l'évoquer longuement, votre mandat présidentiel n'a pas été simple, encore aujourd'hui. Le comité exécutif a fixé la date des prochaines élections à la présidence de la CAF au 12 mars 2021. Vous en serez ? Est-ce que vous envisagez d'être candidat pour un nouveau mandat ?
Pour moi, ce n'est pas une priorité. Une priorité maintenant, c'est de pouvoir faire face à ces urgences au sein de la Confédération. En dehors de la CAF, j'ai pris ma décision de me présenter en 2016, moi, une semaine avant la clôture des candidatures. Aujourd'hui, je suis au poste de président. Je ne vois pas pourquoi je vais me précipiter de penser à ça, de réfléchir à déposer ma candidature ou envisager de se présenter. Et surtout que, pour moi, ce n'était pas une ambition personnelle. C'était dû à une sollicitation de mes collègues présidents des fédérations.
Merci beaucoup.
Si la même situation se réalise, c'est autre chose. Si ça ne se réalise pas, ce n'est pas la fin du monde.
Merci beaucoup, Monsieur Hamad. On va vous quitter sur ces sages paroles d'un président de la Confédération africaine de football qui, effectivement, comme d'autres présidents de confédération ou de fédération actuellement, doit affronter plein de vents contraires. Merci beaucoup, Monsieur Hamad. À très bientôt sur RFI.
Merci, au revoir.
Merci. C'est vrai, je disais tout à l'heure, Philippe Doucet, cette CAN du Cameroun semble maudite. Alors évidemment, c'était un peu provoqué.
La terre de glissement.
Attends, mais c'est ces pauvres Camerounais qui, depuis 2013, si je me trompe pas, où on avait commencé à attribuer ces futures CAN, finalement, se retrouvent avec une compétition qui est sans cesse reportée.
Ça devait être 2015, je pense. Oui. Mais bon, peu importe, oui, c'est incroyable.
Qui avait été attribué comme ça en séquence. On se souvient, et alors elles sont sans arrêt déplacées. Alors certes, ça donne le temps du coup de finaliser les travaux, mais c'est vrai que pour tout ce qui est organisation, et Monsieur Hamad le disait, pour ce qui est des sponsors, pour ce qui est en plus de l'intérêt de l'événement, ça devient vraiment un chemin de croix pour le Cameroun.
Oui, on va commencer évidemment par l'organisateur, parce que c'est très compliqué aussi pour la CAF, hein, qui a doit gérer ses sponsors. On va trahir un petit secret. Un sponsor majeur de la CAF voulait vraiment que cette CAN ait lieu en janvier 2021. Il a fallu pour la CAF, j'imagine, expliquer à l'un de ses sponsors principaux que c'était pas possible. Ça pose des problèmes d'organisation majeurs, encore plus pour le Cameroun.
On a eu deux journées sur six pour ce qui est des éliminatoires, ne serait-ce que ça. Et comment fait-on une compétition si on n'a pas les qualifiés?
Sans avoir les qualifiés, évidemment. C'était un problème évidemment majeur. Je pense que c'était la bonne décision.
Vous nous l'avez bien expliqué sur la page Facebook de Radio Foot tout au long du confinement.
Dès début avril, on avait émis cette hypothèse parce que le risque de ne pas pouvoir avoir les qualifiés était trop grand, et une institution comme la CAF ne peut pas se dire bon, on verra en octobre-novembre. Je trouve que pour une fois, parce que sur d'autres sujets, je trouve que ça manque d'anticipation, la déclaration de M. Hamad, mais sur ce plan-là, je trouve qu'au contraire, il fallait anticiper de cette manière-là. Et alors, le dernier mot, c'est pour le Cameroun qui, effectivement, va de difficulté en difficulté. Et pour eux aussi, c'est difficile parce que certes, ils ont un peu plus de temps pour finaliser quelques travaux et ce sera sûrement nécessaire dans certains cas. Mais malgré tout, pendant ce temps-là, il faut entretenir les stades. C'est des coûts supplémentaires, c'est des charges supplémentaires. C'est une réelle difficulté, bien sûr, pour le Cameroun. On espère tous enfin voir une CAN au Cameroun en 2022.
Voir une CAN déjà.
Voir une CAN tout court. Oui. 72, j'étais pas là. Ouais.
Antoine.
Oui, le panel.
C'est bien, ce sera 50 ans après 72. C'est merveilleux. C'était pas prévu, mais c'est merveilleux.
Non, un anniversaire.
Le panel des décisions qui ont été prises aujourd'hui par le comité exécutif vont de toute façon dans le sens qu'il aurait dû prendre et qu'il a dû prendre. Donc la CAF est un peu contrainte de toute façon dans ses décisions par cette pandémie de coronavirus. Mais même si la date actuellement de la CAN 2021 est arrêtée, qui sera peut-être désormais appelée la CAN 2022, peut-être il faudra changer le nom.
Je ne sais pas, parce que la question s'est déjà posée pour l'euro. Il garde son nom.
Reste l'euro 2020, mais il sera joué en 2021. Est-ce que la CAN sera la CAN 2022?
On fera des économies de logo.
Je n'avais pas pensé à ça.
Reste que la CAF, comme d'ailleurs toutes les autres confédérations, navigue à vue sur la situation sanitaire. Est-ce que les points d'interrogation restent très très importants et très nombreux, parce que personne ne peut lire l'avenir. C'est dommage.
Et c'est vrai que c'est très compréhensible en même temps, parce que même nous, dans nos entreprises, on s'en rend compte de ces conditions sanitaires qui dictent un peu le quotidien et qui nous obligent aussi de naviguer à vue. Évidemment, des réactions dans les journaux des sports, Antoine Grenier, par la suite à cette décision. Et puis surtout, aussi demain, des réactions que l'on essaiera d'obtenir dans Radio Foot International. Allez, on continue. Et je suis sûre que aller faire un tour du côté de l'Espagne, ça va vous ravir.
Marcelo vers Ramos qui est resté devant. Benzema, peut-être pour le contrôler, l'enchaînement de Karim Benzema. Oh, la talonnade, golazo, Karim Benzema exceptionnel. Casemiro marque évidemment, mais la grande classe, l'immense talonnade de Karim Benzema. Quelle passe décisive, lumineuse. Le Real Madrid mène 1-0. Karim, Magic, Benzema.
Une passe d'anthologie qui s'appellera peut-être un jour une Benzema. Hein. On a la majeure, pourquoi pas la Benzema. En tout cas, sur la passe de Karim Benzema, un but du Brésilien Casemiro ensuite qui a donné la victoire au Merengue 1-0. Un but essentiel qui a impressionné Zinedine Zidane. Et Zidane, l'entraîneur du Real, il s'y connaît, lui, un artiste balle au pied.
C'est l'ultimo, elle de Karim.
La talonnade de Karim est meilleure car elle est plus récente et c'est une action collective. Il y a à l'origine une super passe de Marcelo, puis Ramos récupère de la tête et Benzema talonne vers Casemiro. Tout le monde sait que Benzema peut inventer quelque chose à partir de rien. C'est un super but, un but collectif. Je suis content pour tous les joueurs. Ce n'était pas un match facile, surtout la première mi-temps.
Karim Benzema qui peut inventer quelque chose à tout instant, c'est ce que pense son entraîneur, c'est ce que nous on voit sur les pelouses. Est-ce qu'il a eu le geste parfait, Philippe Doucet ?
C'est plus que parfait parce que c'est beaucoup de talent, mais c'est aussi une inspiration géniale. Donc c'est au-delà du parfait, ça fait partie des gestes géniaux que peuvent réaliser des footballeurs, dont on se moque souvent ailleurs qu'ici, pour leur comportement, pour plein de choses, et qui sont de réels génies. Je crois qu'il faut employer les bons mots. Ce sont des talents et des génies dans leur domaine, bien évidemment. Benzema ne fera sûrement pas ne peindra sûrement pas Mona Lisa un jour, enfin l'équivalent de Mona Lisa probablement, mais dans son domaine c'est un génie et il l'a prouvé sur cette action.
Antoine, vous peignez pas Mona Lisa, mais faites peut-être ça avec vos enfants dans le jardin
à la gouache, avec la peinture à doigts.
Mais même, même la talonnade de Benzema, je pense que t'auras du mal à la faire
à la fin.
Ouais, sans blesser en tout cas, ça c'est sûr. Non, mais c'est sa 7e passe décisive à Benzema, c'est quelque chose qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est pas seulement un buteur, ça le place, cette 7e passe décisive. Alors, il est très très loin de Lionel Messi qui doit être à 15 ou 17 passes, enfin, oui. un total absolument incroyable. Mais ça montre l'importance de Benzema pour marquer des buts, pour être décisif, mais pour rendre les autres décisif. Et c'est le geste.
Il a rendu
cette
Cristiano
talonnade.
Ronaldo décisif, souvent. Hein.
Souvent.
Cette talonnade, c'est le geste surtout d'un joueur qui est en pleine confiance. Ça se sent, ça se voit, il est bien là où il est. Il est peut-être libéré aussi d'une certaine manière du poids de Ronaldo, ce qui lui permet d'avoir plus de créativité. Et on sent un joueur investi sur le plan collectif. Et cette passe en est l'illustration parfaite.
On va appeler François David, notre expert du football espagnol, qui est en ligne avec nous. Hola François.
Hola Annie, bonsoir, bonsoir à tous. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire après les interventions de messieurs Doucet et Grenier.
Juste nous raconter que la presse. Non, mais alors moi j'ai une question. La presse espagnole, je crois qu'elle, une fois de plus, elle a été épatée par le geste de Karim Benzema, dont pourtant elle tresse les éloges presque chaque semaine ou maintenant qu'il joue tous les trois jours, presque tous les trois jours.
Eh ben depuis quelques années, parce que on se souvient que les débuts de Benzema au Real Madrid, ben, ça fait long, hein, ça fait 2009.
10-11 ans, oui.
Désormais, mais il avait été quand même beaucoup critiqué pour son comportement, pour sa manière de faire, sa manière d'être, tout simplement, qui choquait avec l'Espagne, sa faible propension à marquer des buts. Eh ben je crois que c'est Antoine qui le disait, que depuis que Cristiano Ronaldo est parti, eh ben on sent un Benzema totalement libéré, c'est le chef de l'attaque du Real Madrid. Il a 32 ou 33 ans maintenant. Zidane disait en conférence de presse que c'était le meilleur âge possible parce que à cet âge-là, le joueur a tout. Il est toujours frais physiquement, il est complet, il est prêt mentalement. Et Benzema, on le confirme, là, il manque juste que le brassard de capitaine, c'est le vice-capitaine du Real Madrid, pour en faire le joueur total. Et en Espagne, on dit désormais de lui que c'est le deuxième meilleur joueur de la Liga. Après Messi évidemment, mais c'est le joueur le plus décisif. Et je suis content pour Benzema qui s'est battu quand même. Il a eu quand même Higuaín dans les pattes au début. Après il a eu d'autres joueurs, Cristiano Ronaldo. C'était pas simple de se développer autour de l'ogre Cristiano Ronaldo qui prenait toute la place en attaque. Et je suis content aussi pour Zidane qui a maintenu Benzema contre vents et marées, qui finalement ça lui donne raison. Et Benzema superstar désormais.
Ça donne raison aussi à Florentino Pérez, hein, qui quand il l'avait fait venir, on se souvient, c'était un peu son joueur préféré. Philippe, il y a...
C'était un superbe investissement sur un joueur qui était très très jeune. Ouais. Hein, il est parti de Lyon à quel âge? 20 ans?
Bah oui, c'était il y a 10 ans, quelque chose comme
20 ans,
ça.
21 ans.
Un peu plus de 10 ans. Hein.
Ouais. Philippe, alors on parle des attaquants évidemment et de ceux qui marquent des buts ou qui font des passes décisives, mais ce qu'on note aussi, et c'est ce qu'avait souligné Zinedine Zidane dans sa conférence de presse, c'est la défense de ce Real Madrid. Il a dit, la charnière Sergio Ramos, Rafael Varane est la meilleure de l'histoire du club. Est-ce qu'il exagère, Zidane? Alors sans doute un peu, mais c'est quand même une défense qu'on voit à l'œuvre. Ça vous fait sourire?
Non, c'est drôle qu'il dise ça sur un club qui a une telle histoire et qui a notamment gagné 6 Coupes d'Europe entre 1956 et 66, à une époque où Zidane n'était pas né, donc il aurait du mal à comparer avec la charnière de l'époque. Mais évidemment,
mais il y a la vidéo peut-être.
Mais bon, non, mais c'est juste amusant de ce point de vue-là. Mais sinon, évidemment, tout ce qui tourne autour de Ramos, de toute façon, alors Varane en plus est très bon, mais tout ce qui tourne autour de Ramos, ça marche depuis si longtemps que effectivement il se trompe pas fondamentalement en disant une chose pareille. Moi j'ai connu Ramos à Séville arrière droit. On a mesuré ensuite ce qu'il est devenu au Real. C'est évidemment un joueur considérable pour
depuis
le Real
2005,
et en
lui, hein.
Règle générale. Ouais.
Ouais, incroyable. En tout cas, une question pour vous, François David. Le Real Madrid est donc bien installé à la première place de la Liga. Il comptait un point de retard après la 27e journée, c'est-à-dire à la fin du confinement. Et le voilà devant avec 2 points d'avance. Est-ce que, alors pendant quelques jours, hein, on a eu le Real qui était premier parce que c'était la différence de but particulière, tout ça. Maintenant, il est devant avec 2 points d'avance. Est-ce que c'est une voie royale pour le Real? Et en pensant au calendrier qui l'attend, où bon, il y a encore quelque chose quand même qui l'attend en route. Hein. Ouais. On a un Athletic Bilbao bientôt.
Il y a Retafe, qui est cinquième et qui lutte pour la championne. Il y a Villarreal, qui est un super club depuis le début du confinement, depuis la fin du confinement, et ça
oui,
va
oui.
pas être
il y en
simple,
a d'autres, Villarreal et tout.
Mais on sent une énorme sérénité du Real Madrid, beaucoup plus qu'en face, que c'est Barcelone. On sent une adhésion déjà par rapport au coach, ce qu'on n'a pas, et on va en parler au FC Barcelone. Et on sent, bah, vous l'avez dit, de l'attaque avec Benzema à la défense, Varane Ramos, et je rajouterai aussi le gardien de but, Thibaut Courtois, qui est bien meilleur qu'il y a quelques mois, bah, ça donne un groupe beaucoup plus dense, beaucoup plus complet. Il y a juste un tout petit bémol, Eden Hazard qui arrive pas pour l'instant à donner la pleine mesure de son talent. Alors il a été blessé, c'est sa première année, je pense que l'an prochain il sera bien meilleur, mais c'est la seule petite ombre au tableau. Sinon, je pense que là, actuellement, on a le grand favori pour cette Liga.
Alors justement, François, vous me parlez du Real en pointillé, hein, bien sûr, puisque ce sont les deux équipes qui seront vraisemblablement l'une des deux championnes de ce championnat d'Espagne, de cette Liga. Le Barça, 2 points de retard et un obstacle, eh bien, sur la voie éventuellement royale de ce club. C'est au Camp Nou ce soir, et c'est l'Atlético, le mur de l'Atlético qui se dressera dans ce Camp Nou. Parlez-nous un peu des traces qu'a laissé Vigo et le match nul à Vigo face au Celta. On dit qu'il y a des remous dans le vestiaire envers l'entraîneur Quique Setién. Ça va pas bien. Ça se voit sur le terrain, d'ailleurs.
Ça va pas bien. On l'a vu sur le terrain. Je crois que le Celta Vigo d'Oscar Garcia, brillamment vu à Saint-Etienne, leur a fait beaucoup de mal. Ils ont profité à fond des faiblesses derrière du Barça. Alors on a Piqué qui essaie de tenir la route, mais il a 33 ans, il joue tous les matchs. C'est un petit peu dur. On a Samuel Umtiti qui est à un niveau très très loin de celui qu'on a connu à la Coupe du Monde 2018. Et c'est tout un ensemble, on sent pas le Barça fragile. On sent pas le Barça fragile. Et on sait pas finalement ce qu'a provoqué le changement d'entraîneur au cours de la saison entre Ernesto Valverde qui avait été limogé et l'arrivée de Quique Setién. On voit pas de grande différence,
eh oui.
Pas de patte Setién. On a eu quelques petites prémices au début où Setién essayait vraiment de reconstruire de revenir aux bases de Johan Cruyff, mais je crois que c'est compliqué et que le vestiaire surtout a perdu de la confiance en Quique Setién et surtout Annie, en son adjoint. On parle pas beaucoup de son adjoint en France, on en parle énormément en Espagne. C'est un jeune entraîneur qui s'appelle Eder Sarabia, qui est un peu, alors je vais dire un terme un peu péjoratif, mais c'est un peu une grande gueule. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui se permet de dire à Messi comment frapper les coups francs et à Luis Suarez comment se positionner pour marquer des buts.
Oh là.
Bah ça, à Messi et à Luis Suarez, ça passe pas.
Oui,
ça, un entraîneur de 35 ans, 36 ans, vous voyez, c'est un peu le complément de Quique Setién qui est très calme sur le banc, qui dit rien, et l'autre, c'est une véritable bombe à retardement, et ça passe pas. Alors, il y a eu une réunion entre le vestiaire et Quique Setién avant-hier, ça s'est très mal passé, il y a eu quelques noms d'oiseaux qui ont volé. Ça s'est un petit peu apaisé ces dernières 24 heures, parce que de toute façon, les joueurs du Barça savent qu'ils n'ont aucune opportunité possible, sinon gagner ce soir contre l'Atlético Madrid, pour pouvoir dormir ce soir en tant que leader et espérer peut-être un faux pas du Real Madrid dans les prochaines semaines. Mais ça va pas du tout. Hein. José María Bartomeu, le président, et Eric Abidal, le directeur sportif, on sont allés visiter Quique Setién dans sa maison pour le rassurer, pour dire que s'il devait prendre des décisions, qu'il devait faire absolument. Mais on sent que c'est pas serein. Et c'est finalement l'accumulation de plusieurs semaines où chaque semaine, on trouvait des choses à dire sur le Barça. Ce soit les Rakitic, Arturo Vidal qui voulait partir, les blessures. Le changement d'entraîneur, ça n'a pas été une année sereine, et ça dure déjà depuis depuis quelques mois, et le Barça finalement a tenu grâce au génie à la grâce de Lionel Messi. Mais le jour où Messi ne va moins bien, eh ben on voit qu'Antoine Griezmann n'arrive pas à s'acclimater, qu'il y a quelques complications. Et
oui.
Franchement, voilà, je trouve que le Real Madrid donne une image beaucoup plus solide, beaucoup plus compacte que ce FC Barcelone-là.
On va juste entendre Diego Simeone, François, avec vous, parce que Diego Simeone, évidemment, il arrive avec une équipe qui est sur une bonne dynamique, qui, elle, vise une place en équipe, en Ligue des Champions l'année prochaine. Écoutons-le, Diego Simeone, il envoie la balle du côté du Barça.
Je ne m'intéresse pas aux dynamiques. Ce qui m'intéresse, c'est ce match. Un match très difficile face à une des meilleures équipes au monde, peut-être même la meilleure, possédant des joueurs extraordinaires qui remportent la Liga depuis plusieurs années d'affilée. Donc je suis certain qu'ils ne vont pas baisser les bras, qu'ils vont se battre jusqu'à la fin de la saison. Ce sont des joueurs habitués à gagner, des joueurs qui veulent tout gagner. Ils sont tout simplement très bons.
Il aura bien passé la balle, hein, Philippe Doucet. Ça va être un match compliqué pour ce Barça.
Oui, oui. Puis en plus, c'est le match décisif. Donc, quelque part, c'est une bonne préparation pour la suite, parce qu'il y a une Ligue des Champions ensuite. Donc, il faudra vivre avec. Oui, pour les deux. Mais dans ce Barça un peu complexe dans ce moment, il faudra le vivre correctement. Et pour le vivre correctement, il faut réussir une fin de saison correcte, sans doute finir deuxième, parce je ne les vois pas reprendre le Real. Mais pour faire une saison correcte, il faut gagner ce soir pour se remettre d'aplomb, parce que sinon, on va peut-être assister à une déliquescence jusqu'au mois d'août pour le Barça.
François David, vous serez au Camp Nou ?
Bah non, on n'a pas le droit, non.
Hein, j'imaginais bien.
Il y a que 14 médias qui sont autorisés. C'est principalement des radios et qui payent cher, hein, pour donner les matchs et les télés.
Ils payent pour
donc,
les
moi,
autres.
Moi, non, je verrai devant la télé comme tout le monde. Mais je serai attentif, vous inquiétez pas.
Non, je ne m'inquiète pas. Merci beaucoup, François David, d'avoir été en direct avec nous. À très bientôt. Et donc ce soir.
Merci.
Ce soir, hein, n'oubliez pas ce match, et ça sera donc à 22h. Je pense que ça sera du spectacle à ne pas manquer. Allez, notre dernier clin d'œil cette fois de Radio Foot International.
Matuidi qui sert dans la profondeur. Lucas Hernandez, c'est bien joué. Lucas Hernandez au duel avec Mercado, il parvient à centrer. Le ballon arrive au second poteau. Benjamin Pavard, la frappe, le but, la demi-volée en pleine lucarne. Benjamin Pavard, le joueur de Stuttgart qui remet.
C'est son tout premier but pour les Bleus, Benjamin Pavard, après 9 sélections. C'est un bijou absolu, cette frappe du droit, une reprise spontanée, totalement spontanée de ce centre qui était trop long, une frappe croisée qui va se ficher dans le petit filet d'Armani.
C'était il y a exactement 2 ans, le 30 juin 2018, en Russie, sur la pelouse de Kazan. Aux commentaires, nos deux champions, Antoine Grenier, vous étiez avec Hugo Moissonnier, c'est vous qu'on entendait pour commenter cette demi-volée en 8e de finale dans ce France-Argentine. Le défenseur des Bleus, Benjamin Pavard, qui allait changer le destin de l'équipe de France, rien de moins.
En entendant les commentaires, la chair de poule, elle est là. Je revis ce moment de ce but de Pavard où l'équipe de France
n'est
pas bien.
Vous pouvez chanter si vous voulez, Antoine. Les louanges de Benjamin Pavard.
L'équipe de France n'est pas bien à ce moment-là. Les Argentins mènent 2-1. Enfin, on sent que l'Argentine, qui est poussée en plus par ce stade de Kazan monumental l'équipe le lendemain. On sent cette équipe argentine en confiance, et cette frappe de Pavard qui est pure, limpide, elle va vite et elle rentre. Et on sent à ce moment-là que ça change le cours de la rencontre, et que les Argentins prennent pas seulement ce but, prennent pas seulement le poids de l'égalisation, ils prennent le poids de tout le stade, de tout le silence qui se fait à ce moment-là dans le stade, où on n'entend plus que les Français, qui étaient beaucoup moins nombreux que les Argentins. C'était un moment absolument magique, et ça a un peu conditionné les autres performances de l'équipe de France derrière.
Philippe, hein, c'est le but qui finalement remet les Français dans le bon sens dans un match qui au départ n'était pas simple face à Messi et sa bande et qui permettra à la France, eh bien, d'après l'huitième de finale, de continuer sur le chemin.
Ben, c'est vrai que si vous deviez choisir un anniversaire, une date anniversaire, c'est sans doute le plus beau symbole. Paradoxalement, c'est pas France-Croatie, c'est pas France-Belgique non plus. Je pense que le moment un peu clé dans cette Coupe du Monde, c'est en termes d'émotion. C'est le but de Pavard. C'est le but de Pavard.
Ça a été
clairement
désigné le plus beau but de la Coupe du Monde. Ah oui, mais après, on aurait le fameuse, Mbappé qui va passer le mur du son là avec ses 38 km/h ou 32 ou je sais plus combien, et qui va épater tout le monde. Et finalement, on a l'impression que là, on a vu une équipe de France impressionnée. Je sais pas, naître, c'est exagéré, mais impressionné en tout cas.
Ouais, c'est un peu l'acte fondateur finalement de la victoire des Bleus. Et le symbole est d'autant plus fort sur ce but qu'il vient d'un joueur qui avait 22 ans à l'époque, qui est un gamin, qui, pour sa première convocation par Didier Deschamps, avait surpris tout le monde. Personne connaissait Benjamin Pavard. Quand il y a que Didier Deschamps et son staff qui connaissaient Benjamin Pavard, qui évoluait en Allemagne à Stuttgart. Il arrive à cette Coupe du Monde en étant le remplaçant de Djibril Sidibé. Faut s'en souvenir, ça aussi. Mmh. C'est pas lui le titulaire à la base. Djibril Sidibé arrive diminué, blessé au genou, ne joue pas. Mmh. Et Pavard s'impose et ne convainc pas forcément tout de suite. Mais finalement s'installe et devient décisif au moment le plus important. C'est tout un symbole, ce but de Benjamin Pavard.
Et en plus, ça a été symbolique pour sa carrière, parce qu'effectivement, comme vous dites, il était très peu connu. Il était à Stuttgart.
C'est un invraisemblable renversement. Pour ceux qui l'ont connu quand il était à Lille, formé à Lille. Bon, très bon défenseur, solide, défenseur central d'ailleurs, de formation.
C'est son poste de formation.
Solide, ok, de bonne qualité, mais enfin rien d'inoubliable pour eux. Et puis derrière, quand ils voient ça, bon, bah voilà, ça fait partie de la magie aussi. Pavard ne gagnera peut-être jamais une Ligue des Champions, il sera peut-être jamais dans...
Enfin maintenant, il est au Bayern Munich.
Non, il est au Bayern. Mais il fera peut-être pas, il restera peut-être pas dans l'histoire, l'autre histoire. Mais ça, ce moment-là, cette Coupe du Monde-là, où il vient de nulle part, on sait pas qui c'est, et où il fait partie de l'histoire d'une manière assez heureuse pour Deschamps à la réussite. Pavard et Hernandez, c'est de la réussite aussi. Parce que c'est pas ce qui est prévu. Et puis finalement, Et en plus, les doublures, ce sont deux joueurs blessés qui sont pas au sommet de leur, c'est-à-dire Mendy et Sidibé, qui sont théoriquement les titulaires, mais qui en fait sont pas dans le coup. Donc si jamais les deux jeunes ne réussissent pas, c'est, l'équipe de France n'est pas championne du monde. C'est une évidence. D'ailleurs, ça aurait été deux trous insurmontables.
D'ailleurs, la passe décisive sur le but de Pavard vient d'Hernandez, qui était lui-même arrivé comme remplaçant de Benjamin Mendy
et qu'on découvrait aussi. Exactement.
Et ça, le football est un roman. On peut raconter les histoires de manière romanesque.
Quand on parle de ce geste de Pavard, il faut aussi parler de la pureté du geste. C'est-à-dire que son corps, le haut de son corps, est parallèle au terrain tellement il est penché. Et le ballon paraît sortir, puis finalement revient. C'est incroyable qu'il ait pu le marquer. Et d'ailleurs, il l'a pas mal retenté. D'ailleurs, on l'a senti après un petit peu obsédé par ce but qu'il avait marqué.
Ce geste.
Il a voulu répéter, il a voulu remettre ce but. Il l'a toujours pas fait en équipe de France. Il est toujours coincé à un but, mais quel but.
Et quand vous dites qu'il venait de nulle part, effectivement, c'était revenu un refrain en France pendant l'été dernier. Benjamin Pavard, la chanson qui lui est dédiée. Merci à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et à Laurence Alerno. Et on vous dit à demain. Stuttgart, on en parlera demain avec David Lortolari. On parlera de la Bundesliga.